Vous êtes sur RTL.
RTL.
Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là?
Le journal inattendu. Le journal inattendu sur RTL avec Louane et Ophélie Meunier.
Donne-moi ton cœur, donne-moi et le reste.
Et je suis bien arrivée dans le studio du journal inattendu et je suis avec Louane. Bonjour Louane.
Bonjour, comment ça va?
Ben, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous et de prendre les commandes de cette émission. On est une heure ensemble en direct. L'actualité est un peu lourde, alors on va tenter de mettre de la douceur dans les oreilles de nos auditeurs. Votre nouvel album s'appelle « Joie de vivre ». Rien que cette phrase, ça fait du bien de l'entendre.
Merci.
Louane, je vous suis depuis le début de votre carrière. C'est votre troisième album et je vous trouve changée. Les musiques ont changé, les paroles sont plus personnelles, la voix est plus assurée. Alors qu'est-ce que cela révèle? On va tenter de percer le mystère Louane aujourd'hui. Au programme de cette émission, votre reportage inattendu, votre invité et votre message sur le répondeur du journal inattendu. Mais d'abord, vous savez que chaque semaine, c'est mon invité qui ouvre le bal avec son autoportrait. Vous avez une minute pour vous présenter. Alors Louane, qui êtes-vous?
C'est dans mes chansons que je parle le plus de moi, dans cet album comme dans les précédents. Et donc j'ai choisi quelques phrases ici et là qui me semblent vraies. Comme quand je dis que je change d'avis régulièrement. Je suis face à la vie une infidèle, une révoltée. Éternelle insatisfaite, une boussole frénétique. Un sentier vers l'infini, une poésie indécise. Celle que j'étais n'est pas celle que je suis. Non, je ne suis pas iconique et pourtant mon visage est connu des gens. Mais mademoiselle tout le monde veut juste rêver, ne pas avoir le trac face à la vie.
Ça fait rêver. J'espère que vous rêvez toujours malgré cette...
Je rêve toujours.
Cette actualité toujours. Lourde. On va découvrir ça, mais d'abord à l'actualité, à la une ce samedi. Les petits commerçants sont en colère et craignent de ne pas résister à ce deuxième confinement. L'ouverture des boutiques non alimentaires est soutenue par de nombreux maires, mais fait débat. Qui ouvre, qui ferme? On fait le point dans ce journal. Un troisième homme a été placé en garde à vue 2 jours après l'attentat de Nice. Le suspect, lui, est toujours hospitalisé et n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Notre envoyé spécial a Nice a rencontré l'une des plus proches amies d'une des victimes, une femme de 60 ans. Vous entendrez ce témoignage bouleversant. En rugby, match à suivre ce soir, France-Irlande à 21h10. Le 15 de France, deuxième du classement, a encore une chance de remporter le tournoi des 6 nations. Et en ce week-end confiné, Valérie, la douceur est de mise.
Oui, et en plus, il va faire beau globalement. Alors certes, on a une dégradation qui arrive par l'ouest actuellement. Ça donne pas mal de pluie sur la pointe bretonne et sur le Cotentin, mais partout ailleurs, c'est quand même vraiment très très bien ensoleillé. Sauf que la dégradation ne va pas rester où elle est forcément. Elle concernera tout le quart nord-ouest d'ici la fin de l'après-midi. Tout cela effectivement avec des températures très douces. 16 degrés attendus à Brest, 17 à Dunkerque, 18 à Colmar, 20 degrés à Paris et Mâcon, 21 pour Montpellier et un bon 24 à Biarritz.
On profitera de notre heure de sortie.
C'est ça.
Pour tester ces douces températures. Merci Valérie. Rendez-vous à 18h parce qu'à 13h, c'est vous Louane qui nous donnez des nouvelles
c'est
du
ça.
Temps. Et aussi la température sur la plage du Touquet. Très important.
Très important. Journal inattendu sur RTL.
L'actualité de ce samedi, c'est tout d'abord l'affront des commerçants. Alors que démarre le deuxième confinement en France, qui ferme et qui reste ouvert, il y a débat. Magasins de vêtements, coiffeurs, libraires, boutiques de jouets, ces commerces non essentiels réclament de pouvoir rester ouverts sous peine de mettre la clé sous la porte. D'ailleurs, malgré les directives du gouvernement, de nombreux maires prennent des arrêtés pour donner un sursis à ces commerces non alimentaires. Reportage dans l'ouest de la France de notre correspondant Mathieu Lopineau.
Oui, à Angers, par exemple, une disquaire est en colère contre l'ouverture de la FNAC. Elle a décidé de ne pas fermer sa boutique. Ou encore près de Guingamp, où Frédéric tient, lui, un magasin de jouets. Il a ouvert hier, sauf que dans la matinée, il a reçu la visite des gendarmes l'obligeant à baisser le rideau. Ils sont repartis, mais en laissant une amende de 135 euros.
Soit on me dit, vous êtes dangereux, vous fermez, mais les autres aussi. Soit je me bats pour que le jouet soit reconnu comme un produit de première nécessité, c'est-à-dire à l'approche de Noël, moi j'ai des petites mamies en panique qui se demandent comment ils vont offrir des jouets à leurs petits-enfants. Si vraiment on peut pas bosser, je fais repartir des semi-remorques de jouets de mon magasin direction le palais de l'Élysée. Au bout d'un moment, on trouve c'est trop.
Et depuis hier, plusieurs maires ont pris des arrêtés permettant aux commerçants non alimentaires de rouvrir, comme aux Herbiers en Vendée, mais la préfecture a d'ores et déjà rejeté l'arrêté de Véronique Besse, la maire de la commune.
Le préfet ne peut pas me faire retirer l'arrêté, ça va se jouer. jouer au tribunal administratif. Mais pour l'instant, on gagne du temps. Les gendarmes sont passés, je viens de l'apprendre, mais ils n'ont pas verbalisé, ils n'ont pas le droit de verbaliser. Bon, on gagne du temps, au moins aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. On va voir comment ça fonctionne au niveau du tribunal, mais je suis très déterminée pour nos commerçants.
La mairie ne compte pas retirer son arrêté, c'est donc la justice qui tranchera dans les jours à venir. En attendant, les commerçants restent ouverts.
Ils restent ouverts, mais s'ils finissent par baisser le rideau, certains craignent de ne pas pouvoir le relever un jour face à cette angoisse. Le gouvernement tente de s'expliquer et de gagner du temps, William Galibert.
Oui, c'est vrai. Alors, hors micro, les élus de la majorité dénoncent l'attitude irresponsable de ces maires frondeurs. Et ce sont les préfectures qui se chargent de casser un à un les arrêtés municipaux. Mais il faut aussi une réponse politique à cette colère, à ces inquiétudes des commerçants. Alors, le gouvernement fait ce qu'il peut, il communique. Nous ne laisserons tomber personne, répète ce matin Bruno Le Maire, qui détaille une nouvelle fois l'ensemble des aides de l'État pour faire face aux fermetures. On essaye de rassurer, mais pour nous, cette colère des commerçants, c'est une bombe à retardement, avoue un conseiller ministériel. Mais pour le moment, il est hors de question de changer les règles du jeu. L'épidémie ne le permet pas, répètent les autorités, qui rappellent qu'un premier bilan sera fait après 15 jours de confinement. D'ici là, il ne faut espérer aucune dérogation. Un député En Marche prédit tout de même que cette fronde va s'estomper petit à petit. Il dit... Quand on verra à nouveau dans quelques jours les images des hôpitaux débordés, on comprendra pourquoi on a pris des décisions tellement drastiques et ça risque de mettre tout le monde d'accord.
William Galibert du service politique d'RTL, un point sur les chiffres de l'épidémie. Sachez qu'hier, près de 3400 patients étaient hospitalisés en réanimation à cause du Covid-19. La capacité des services de réanimation actuellement en France est de 5800 lits. Deux jours après l'attentat de Nice, ce sont trois hommes qui sont désormais placés en garde à vue. Ils ont 47, 35 et 33 ans. Deux d'entre eux ont été en contact avec l'agresseur avant l'attaque et le troisième était présent à son domicile lors d'une perquisition. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'assaillant a bénéficié d'une complicité. Je rappelle que l'attentat a fait trois victimes. Vincent Loques, un sacristain de 55 ans, Simone Barreto Silva, une brésilienne de 44 ans et une femme de 60 ans dont l'identité vient d'être révélée. Elle s'appelle Nadine. Mourad Jabari a rencontré l'une de ses plus proches amies, Bérénice. Elle se connaissait depuis 30 ans.
C'est une femme qui était passionnée de théâtre depuis toujours. Une fille vraiment adorable, gentille, très, très douce. Toujours le sourire, malgré que je savais qu'elle avait des problèmes et qu'elle avait une vie qui n'était pas facile du tout. Elle arrivait à tout concilier sans jamais se mettre en colère sur les problèmes qu'elle pouvait avoir. Je pense que c'est pour ça qu'elle allait aussi de temps en temps à l'église pour prier. C'était une femme hors norme.
Quand vous avez appris sa disparition, quelle a été votre réaction ?
Oh, ça a été le choc, mais alors un choc terrible. En plus, j'étais en voiture, je savais plus où j'en étais. Sur le moment, d'abord, de toute façon, je ne l'ai pas cru. Les informations étaient que la femme qui avait été tuée avait 70 ans. Ce n'était pas du tout l'âge de Nadine, puisqu'elle avait 60 ans. Pour moi, c'était certainement une erreur. Ensuite, j'ai eu son mari qui m'a confirmé. Et c'est toujours le choc. Je n'arrive pas à m'y faire.
Témoignage bouleversant recueilli par Mourad Jabari, l'un de nos envoyés spéciaux à Nice. L'assaillant, un Tunisien de 21 ans, n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. Il est hospitalisé et son pronostic vital est toujours engagé. Dans ce contexte de menaces terroristes, un plein week-end de la Toussaint, la sécurité va être renforcée aux abords des cimetières et des églises qui restent ouvertes jusqu'à dimanche soir. Des patrouilles de police supplémentaires réclamées par le ministre de l'Intérieur juste après l'attentat de Nice. Les élus vont mobiliser leur police municipale et la ville vidéoprotection de leur commune. Jean Castex et Florence Parly se rendront cet après-midi à Rouen, sur le parvis de la cathédrale, et à Saint-Étienne-du-Rouvray, devant l'église où a été tué le père Hamel. Déplacement du gouvernement en soutien aux lieux de culte et aux croyants. Dans un instant, on part aux États-Unis. Coup d'accélérateur de la campagne électorale à J-3 de l'élection présidentielle américaine. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Louane, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Louane et Ophélie Meunier.
La suite du journal, on part aux États-Unis. J-3 avant l'élection présidentielle américaine. Les deux candidats mettent un coup d'accélérateur à leur campagne et seront ce week-end dans le Midwest. Donald Trump espère y rééditer ses bons scores de 2016, alors que Joe Biden, aux côtés de Barack Obama, va tenter de gagner chacun des votes jusqu'à la dernière minute. Selon un récent sondage d'un centre de recherche américain, 6% des républicains affirment qu'ils basculent doubleront côté démocrate le 3 novembre, alors que seulement 4% des démocrates changeront de camp. Les sports, avec tout d'abord en rugby, un match très attendu ce soir. La France rencontre l'Irlande à 21h10. Il faut absolument que le 15 de France gagne ce soir s'il veut encore avoir une chance de remporter le tournoi des Six Nations. Gros enjeu et match à l'échange, Jean-Michel Rascol.
Oui, le 15 de France doit absolument gagner ce soir. L'idéal serait de marquer au moins 4 essais pour s'assurer un point de bonus qui pourrait alors permettre à la France de devancer sur le fil l'Angleterre qui devrait logiquement prendre provisoirement la première place du classement cet après-midi en jouant en Italie. Si les scénarios sont multiples, le manager du 15 de France, Raphaël Ibanez, résume l'enjeu en une phrase.
Le message aux joueurs est simple, nous avons autant de chances de gagner le tournoi que l'Irlande et l'Angleterre.
Le ciel sera dégagé, les étoiles du rugby français sur le terrain et les tribunes désespérément vides, c'est désormais la règle. Pour Fabien Galthié, l'entraîneur, le 15 de France a pris l'habitude de jouer à distance pour ses supporters.
Nous savons très bien que derrière ce stade vide, il y a des millions de Français qui attendent un instant de plaisir, un instant de partage. Donc, tout va bien.
Un match sans public donc, mais pas sans passion et avec des essais comme la semaine dernière pour éclairer cette triste soirée d'automne.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. En foot, les matchs à suivre aujourd'hui, c'est Rennes-Brest à 17h et à 21h, Nantes affrontera un PSG sans Neymar. Le joueur brésilien s'est blessé tout seul mercredi soir lors du match de Ligue des Champions contre l'équipe d'Istanbul. Et bien sûr, on refait le match sur notre antenne de 18h30 à 20h avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot. Avant de parler de votre nouvel album Joie de vivre, Louane, vous vivez comme tous les Français, on vient d'en parler dans le journal, à ce nouveau week-end de confinement. Comment vous réagissez, vous, personnellement, à cette situation ?
Honnêtement, c'est assez spécial. À la fois, je sais très bien que je fais partie des gens qui sont très chanceux et très privilégiés. Je pense que le plus important, c'est de se protéger. Donc, pour l'instant, je me protège,
vous
je
acceptez
les règles. Quoi.
Théâtre, cinéma, salle de concert fermée. Alors, vous n'êtes pas encore en tournée, mais certains artistes
c'est
se retrouvent...
C'est très douloureux, malgré tout.
Tout annulé, oui, vous y pensez. Un mot pour tous ces artistes-là qui ont tout annulé du jour au lendemain.
C'est très, très difficile, surtout que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes, la scène, c'est la chose la plus importante qu'ils aient
pour vous
dans leur métier. Oui, bien sûr, pour moi aussi. Mais c'est trop difficile. Et moi, je pense aussi à toutes les équipes qui sont derrière tout ça. Quand on est un artiste comme moi, honnêtement, on est très, très privilégié. Moi, je sais que les équipes avec lesquelles je travaille, pour certains, depuis que j'ai 17 ans, ils ont que ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment déchirant.
Joie de vivre, c'est sorti il y a 8 jours. Le titre qui a donné le ton de ce nouvel album, c'est « Donne-moi ton cœur », écrit par Damso.
De récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tantamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur.
Vous avez dit que Donne-moi ton cœur, c'est une chanson nostalgique et pleine de fierté. Alors, pourquoi nostalgique et en quoi cette chanson vous rend fière, Louane ?
Elle est nostalgique parce que à la fois c'est un regard sur mon enfance, sur qui j'étais, sur qui j'ai pu être enfant avant de passer dans ce monde où
ce monde
je
du
fais
travail,
de la musique professionnellement,
ouais.
que j'ai rejoint assez vite, honnêtement. Et à la fois, c'est plein de fierté parce que justement, c'est un peu un bilan de toutes ces dernières années et de comment est-ce que j'ai vécu le mélange de ces deux mondes-là et comment est-ce que j'ai réussi à gérer la situation entre les deux.
Votre parcours a été fulgurant, hein. Vous étiez, ouais, justement, vous êtes arrivé dans ce monde à peine 17-18 ans, parce que vous dites mon enfance, mais c'est vrai que vous êtes encore très jeune, hein, vous avez 23 ans, mais il y a vraiment une rupture entre, je dirais, c'est voilà, avant 17 ans et aujourd'hui, quoi.
Ouais, avant 16 ans même, vraiment, j'ai commencé sur The Voice à 16 ans et à partir de là, vraiment, ma vie elle a changé. C'est évidemment une rupture et à la fois je pense que c'est quelque chose qui a été très très bénéfique pour moi. Alors évidemment ça m'a fait rater quelque chose de l'adolescence, de l'enfance qui sont des choses que j'ai pas pu
une certaine légèreté peut-être.
Ouais, bien sûr, ouais. Mais à la fois j'ai gagné tellement de choses que...
Parmi les chansons qui ressortent, qui font parler vos fans depuis une semaine, il y a le duo avec Soul King, Toute ma vie.
Si tu le dis, j'essaierai de croire encore un peu. Si
ce titre, Louane.
Ouais, j'aime beaucoup ce titre. J'ai adoré être en studio avec lui et c'était vraiment une expérience spéciale. Il est très très cool. On travaille pas du tout de la même façon, donc c'était assez déroutant.
C'est-à-dire
que j'avoue que. Et pourtant, on croirait pas de moi du tout parce que je déteste ça. Je suis quelqu'un de très très scolaire dans ma façon
j'aime
d'écrire.
J'aime pas l'école, mais quand je fais de la musique, je suis scolaire.
C'est assez fou, mais j'ai vraiment vraiment besoin d'avoir une structure, d'écrire le couplet, le pré-refrain, le refrain. Je fais les choses dans l'ordre. C'est un peu ridicule. Et en fait, avec Soul King, ça a été très très différent. Il est arrivé dans le studio. On a commencé à avoir le piano. On est passé derrière le micro et
il est plus spontané, plus vif.
C'était tellement spontané, il s'est mis à faire plein de choses derrière le micro. Il était genre ah ça c'est cool, non ça on garde pas, ça c'est cool et tout. Moi j'étais genre
et vous suiviez. En tout cas,
allée dans les toilettes pour écrire mes paroles parce que j'étais en panique.
Le résultat est réussi en tout cas. Les coulisses de Joie de Vivre et votre invité Louane, c'est dans un court instant. À tout de suite sur RTL.
Journal inattendu de Louane avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Louane et Ophélie Meunier.
Je voulais te dire pardon, je me sens con. Je vois ce que tu m'as laissé. C'est ce que je veux lui donner, des souvenirs de toi, de ta force, qu'elle te connaisse même si t'es plus là.
Juste avant la pub, on écoutait Toute ma vie, le duo avec Soul King, et là on entend À l'autre. Vous m'avez dit que vous avez écrit cette chanson dans
le
la
même
foulée.
Jour, exactement, le soir même jour, c'est
ces
ça.
Deux chansons n'ont strictement rien à voir.
Rien à voir, mais je suis sortie de studio avec Soul King, je suis rentrée chez moi et j'avais ce piano et je l'ai écrite le jour même.
À l'autre, de maman à fille. Louane, on connaît votre histoire, elle est touchante, elle est marquante. Vous avez perdu vos parents en 2013 et 2014, vous étiez à peine majeure. Vous dites dans cette chanson vouloir transmettre à votre fille la force de votre mère. Dans quelle situation vous l'avez trouvée forte, votre mère ?
Toute sa vie, ma mère, elle a été forte. Et c'est quelque chose que tout le monde peut... Tous les gens qui ont rencontré ma mère diront ça d'elle. Mmh. Elle, vous savez, c'est le genre de femme où quand on la voit, on voit la force qu'elle a. C'est vraiment...
Elle le porte sur elle, physiquement.
Et pourtant, un tout petit bout de femme, vraiment, elle faisait une tête de moins que moi. Elle était genre vraiment toute menue. Mais ça se voyait à sa posture, à sa façon de parler. Il fallait pas se mettre contre elle. C'est pas possible. Elle faisait peur, parfois.
Tellement de signaux indécis. Moi, j'ai pas grandi. On entend le titre « Désolée ». C'est pas où qu'on vit. Encore un autre style. Latino, hip-hop, flow des années 90. Est-ce que c'est l'album où vous vous êtes tout autorisée, Louane ?
Alors, plus que l'album où je me suis tout autorisée, c'est plus l'album où je me suis rien refusée. Dans le sens où j'avais vraiment pas envie, et à la fois c'est parce que c'est mon sentiment de la musique aussi, de me mettre dans une case. J'aime la musique et j'ai pas envie de rester dans une seule catégorie musicale. Alors évidemment c'est un album pop, hein, on va pas mentir là-dessus, mais les influences c'est quelque chose que j'aime aller vraiment explorer, et donc c'est vrai que c'est un album qui est assez éclectique.
C'est l'album aussi où vous vous ouvrez plus au public, où vous parlez de votre nord natal. D'ailleurs, on le voit sur la pochette de l'album, puisque il a été shooté sur la plage de votre enfance, hein, au Touquet, qui s'appelle Joie de Vivre. Vous avez souhaité recevoir et mettre à l'honneur aujourd'hui le travail de Marie Dewey, créatrice de Maison Cléo, une maison de couture. Bonjour Marie Dewey, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Chaque vêtement que vous fabriquez est fait par votre maman à la maison, dans le nord de la France, justement.
Oui, c'est ça, à Calais exactement.
Alors Louane, visiblement, le Nord est un vivier de talent. Pourquoi avez-vous souhaité recevoir et mettre à l'honneur Marie Dewey aujourd'hui ?
Pour plein de raisons. La première, c'est évidemment parce que dans ma démarche de mettre en lumière le Nord, j'avais évidemment envie de travailler avec des gens, avec l'artisanat du Nord, et que c'est très très important pour moi de le mettre en lumière. Mmh. En plus, je trouve que Marie et sa mère sont deux femmes très très talentueuses qui ça m'arrive, ça m'emmène aux autres raisons qui sont en plus de ça très 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 proches de leurs valeurs que je trouve extraordinaires, qui sont des valeurs tout simplement écologiques, des valeurs d'anti-gaspillage et vraiment je trouve ça.
Marie, expliquez-nous un petit peu le concept de votre maison de couture, pourquoi justement elle est éco-responsable, qu'est-ce qu'elle a de valeureux.
Alors nous, du coup, on a un site internet qui s'ouvre seulement une fois par semaine le mercredi. Mm-hmm. Et du coup, il y a seulement ce jour-là où vous avez la possibilité de commander un vêtement. Et ce vêtement sera fait sur mesure par rapport aux mesures que vous nous envoyez après votre commande. Et c'est fait dans des tissus très limités que moi, je trouve des tissus du coup qu'on ne produit pas, mais que je vais chercher, qui viennent de grandes maisons de couture ou alors de designers ayant trop produit. Ou
pas d'usine. Gaspillage.
Ouais, c'est ça.
Le minimum possible. Alors Marie, est-ce que vous allez pouvoir, pendant le confinement, vous et votre maman, continuer à travailler malgré tout?
Oui, oui. Bah, le garage de ma mère où elle fait sa couture est rempli de tissus. On a du mal à marcher dedans quelquefois, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et il y a d'autres couturières de Calais qui aident aussi ma mère à faire les commandes.
Bon, bah super. Et vous, Louane, vous habillez chez Maison Cléo, du coup, depuis que vous l'avez rencontrée?
Typiquement, ce que je porte sur moi, c'est un ensemble de chez Maison Cléo.
Alors, j'invite tous les auditeurs d'RTL à vous rendre de ce pas sur RTL.fr.
Exactement.
Pour voir la vidéo de cette émission et voir l'ensemble de Louane. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous. Louane, allez, votre choix, un titre de votre album que vous voulez mettre en lumière juste avant qu'on parte à la pub?
Peut-être.
Peut-être. Alors, on va trouver peut-être tout de suite en régie. Pourquoi peut-être? Qu'est-ce que vous aimez dans ce titre?
En fait, c'est un de mes deux titres préférés de l'album. Poésie indécise et peut-être, c'est mes deux titres préférés. Et peut-être, vraiment, je crois que c'est celui qui me correspond le plus actuellement.
Pourquoi il vous correspond? Qu'est-ce qu'il raconte, ce titre, qui fait que les auditeurs vont se dire, quand j'écoute peut-être, je connais mieux Louane?
Mais parce que c'est tout, tout le paradoxe de qui je suis et tous les doutes que je peux avoir en général. Cette chanson-là, ça parle vraiment de ça.
On écoute.
Avec toujours de l'amour.
S'il y a que des questions dans ma voix, ferme mes yeux, ouvre grand tes bras et serre-moi encore. Tant que t'es là.
C'est vraiment.
Moi, je vous vois, je vous ai à un mètre et demi de moi dans ce studio. Je vous sens, il y a les yeux qui brillent. Je vous sens émue à l'écoute de ce titre.
Je sais que c'est un titre qui est assez spécial et à la fois, je sais que vraiment, c'est quelque chose qui me correspond très, très fort. L'histoire de cette chanson, elle est vraiment spéciale parce que quand je l'ai écoutée, je voulais pas l'enregistrer.
Pourquoi?
Parce que je trouvais qu'elle me correspondait pas.
Ah, et finalement, ça a été un virage à 180 degrés.
Je suis pas trop une tête de mule, donc Universal et mon management et Jim, mon DA particulièrement, m'ont dit allez vas-y, essaye-la, passe derrière le micro, essaye-la, au pire si ça va pas on la prend pas, mais essaye. Mm-hmm. Donc je l'ai fait, je suis sortie de la cabine et là j'ai dit ok, c'est très bien, c'est la meilleure chanson de la Terre.
C'est en l'enregistrant finalement que vous l'avez senti.
Exactement.
Vous avez dit aussi que Poésie indécise était l'une de vos chansons préférées de cet album, on l'écoute. Dans un instant, le rappel des titres et votre reportage inattendu, Louane. Restez avec nous, à tout de suite sur RTL.
Pour savoir à qui je lirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. L'arc-en-ciel.
Le journal inattendu sur RTL, avec Louane et Ophélie Meunier.
Il est presque 13h.
Le journal inattendu de Louane.
13h, les titres de l'actualité. Ophélie Meunier.
La fermeture imposée par le gouvernement des commerces non essentiels est vécue par beaucoup comme une injustice. Ils craignent de ne pas survivre à ce deuxième confinement, comme Véronique, gérante d'une boutique de prêt-à-porter à Blossheim, dans le Haut-Rhin, dès jeudi. Elle a décidé d'entamer une grève de la faim et de dormir dans sa vitrine à la vue des passants. Une avalanche d'arrêtés a été prise par les maires pour donner un sursis de quelques jours à ces petits commerces. ces petits commerçants angoissés. Le gouvernement avait annoncé qu'il serait tolérant ce week-end avec les retours de vacances. Du coup, on a le sentiment que ce deuxième confinement est un peu pris à la légère, comme l'a constaté dans les rues de Paris Romain Hougues.
Est-ce que vous avez fait votre attestation de sortie ?
Non.
Comment vous l'expliquez ?
Parce qu'il y a tellement de monde dehors que je pense que ça sert pas à grand-chose. Ben, j'ai pas l'impression qu'on soit confiné. Il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Je pense pas que ce soit des sorties obligatoires dont ils ont besoin.
On a vraiment l'impression qu'on est un jour comme les autres, presque.
Ben, limite. Franchement, si tout serait ouvert, oui.
Mais attention, des opérations de contrôle sont effectuées dès aujourd'hui dans plusieurs villes de France. C'est le cas sur un marché à Vesoul, en Haute-Saône, ou encore sur le vieux port de Marseille. Sortie d'une heure maximum, port du masque, distanciation, attestation, tout est vérifié. En ce week-end de la Toussaint, les églises resteront ouvertes jusqu'à dimanche soir pour célébrer les morts. Dans un contexte de menaces terroristes dans le pays, des patrouilles de police supplémentaires sécuriseront cimetières et édifices. Un troisième homme a été placé en garde à vue suite à l'attaque terroriste qui a eu lieu à Nice jeudi. Il était présent au domicile de l'assaillant lors d'une perquisition. Ce dernier est toujours hospitalisé et n'est pas encore en mesure d'être interrogé par les enquêteurs. Un mot de sport avec le match de rugby France-Irlande ce soir dans le cadre du tournoi Destination. Gros enjeu, si le 15 de France gagne ce soir, il peut encore remporter le championnat. Et c'est à vous Louane. C'est l'heure de la météo de l'invité du journal inattendu. Alors, qu'est-ce que dit le temps ce week-end ?
Alors, la météo ensoleillée cet après-midi sur une large moitié sud du pays et dans l'est. A contrario, une dégradation pluvieuse touchera les régions du nord et de l'ouest, avec de bonnes pluies entre la pointe bretonne et les Hauts-de-France. Les températures seront douces, même sous la pluie. Il fera 17 à Strasbourg, 18 à Paris et à Rouen, 22 à Biarritz. Et évidemment, 17 sur la plage du Touquet.
C'était chantant, je suis sûre que tous les auditeurs du Touquet sont avec nous ce midi. Dans votre album, il y a une chanson qui s'appelle 3919. Je rappelle que c'est le numéro d'appel pour les femmes victimes de violences. On écoute cette chanson engagée.
En retard, t'as peur comme hier soir, tu n'oses plus croire à demain. Il est là, il t'attend, toi t'es forte, tu serres les dents, tes yeux brillent derrière tes mains. T'as fait ton effort quand lui tapait trop fort, toi tu couvrais ton corps. T'as brisé la glace et le miroir se casse, c'est le coup de grâce. Y'a trop d'histoires.
Louane, vous avez souhaité aujourd'hui parler du 3919, ce numéro d'écoute existe depuis 1992. Le nombre d'appels ne fait qu'augmenter ces dernières années. Et on sait que cela a été terrible pour les femmes victimes de violences conjugales pendant le premier confinement. Un deuxième arrive. Émilie Beaujard s'est rendue à la plateforme du 3919, gérée depuis le début par une association, la Fédération Nationale Solidarité Femmes. C'est votre reportage inattendu.
C'est dans ces bureaux à la moquette rouge que 35 écoutantes répondent au téléphone. Elles ont toutes été formées à la prise en charge des violences conjugales. Zélia travaille ici depuis 2 ans et demi et vient de prendre un appel.
C'est la collègue qui va me... Violence Femmes Information, bonjour. D'accord, donc à l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez pas s'il sait ou non que vous avez porté plainte. D'accord. Et là, vous êtes au domicile conjugal.
Comme souvent, la femme au bout du fil compose le 3919 pour la première fois. Elle cherche des conseils. D'autres n'ont parfois pas conscience d'être victimes. Zélia est alors là pour trouver les mots et parfois leur ouvrir les yeux.
Aller dire à l'extérieur, même à une amie, voilà ce qui m'arrive, mais il faut pouvoir le faire. Elle subit des choses, mais elle ne sait pas si ça relève de la violence. Elle-même, elle est dans le déni parce qu'elle est sous emprise, parce qu'elle pense que le couple ou l'amour, c'est ça. C'est tout un mécanisme, en fait. Et donc, c'est dénouer aussi tout ça, parler, entendre, accompagner.
Le 3919 est une ligne anonyme, confidentielle et gratuite. Les écoutantes sont là pour conseiller et orienter en s'appuyant sur un réseau d'associations. Le but, c'est d'aider ces femmes à sortir de la violence et cela demande une aide très spécifique, comme l'explique Françoise Brier, la directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.
Les femmes, elles sont en face de, à la fois de questions juridiques, sociales, économiques, de parentalité, de déménagement, de logement, d'hébergement. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour les femmes et l'important c'est qu'elles puissent être accompagnées dans ces démarches.
Et dernièrement, le 3919 a dû encore plus s'appuyer sur son réseau d'entraide. Pendant le confinement, les appels ont été multipliés par 4. Françoise Brier s'inquiète.
C'est évidemment une difficulté supplémentaire pour les femmes pour pouvoir téléphoner, parce que les auteurs de violences sont au domicile de façon beaucoup plus fréquente. Et puis, c'est aussi une façon de les contrôler encore mieux. Donc évidemment, cette situation est de toute façon un facteur aggravant pour les violences conjugales.
Les besoins restent donc très importants et Françoise Briet a justement une question pour vous, Louane.
Comment, Louane, vous analysez aussi cette ampleur et ce phénomène des violences et comment vous souhaitez vous engager aussi à nos côtés pour permettre que des femmes soient moins nombreuses à être victimes de ces graves violences comme leurs enfants?
Je suis évidemment très très concernée par la situation, sinon c'est évident que j'en aurais pas fait une chanson. Faut rappeler aussi que le 3919 c'est un numéro d'écoute pour une urgence, c'est évidemment les numéros d'urgence de police habituels. Comment est-ce que je souhaite m'engager? J'ai évidemment très 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 envie de pouvoir vous rencontrer et en parler. J'ai pas mal d'idées et c'est vrai que je pense qu'on peut encore mieux mettre en lumière ces situations en ce moment. Et je souhaite évidemment énormément de courage à toutes ces femmes qui seront enfermées avec leur bourreau pendant ces six longues semaines.
On vous mettra en relation avec eux. Sachez que le 3919 est ouvert de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h samedi, dimanche et jour férié. Face à cette actualité lourde, on avait envie de prendre un peu de hauteur et avoir le regard d'un sociologue sur ce quotidien angoissant. Bonjour Jean Viard, merci d'être
Bonjour.
Avec nous. Vous êtes sociologue et écrivain. Un deuxième confinement avec des dommages collatéraux terribles comme celui dont on vient de parler. Ce qui est difficile, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de bonne solution en fait, que quelle que soit la décision prise, il y aura toujours des sacrifiés. Comment accepter ce sentiment d'injustice ?
Mais c'est comme dans une guerre, hein. Il y a celui qui prend la bombe sur sa maison et celui d'à côté, il la prend pas. Je veux dire, on est dans une situation, hein, et vous l'avez très bien montré avec ces dames. Alors, il faut quand même dire que là, on continue à travailler, les enfants vont à l'école. Donc, il y aura un peu plus d'air dans les couples et donc ça peut être un peu moins pénible. Il faut le rappeler quand même. Mais si vous voulez, bien sûr, il y a des commerces qui sont fermés et qui vont faire faillite. Et puis, à côté, vous avez un grand commerce, une grande surface qui peut rester ouvert, etc. C'est de l'injustice profonde. Et au fond, mais en même temps, je dirais, comment faire autrement? Puisqu'on ne connaît pas bien cette maladie, de même que les attentats, regardez ces pauvres personnes qui étaient à Nice dans la cathédrale, pourquoi ils étaient là, ils sont 10 minutes avant, 10 minutes après, c'était d'autres. Mmh. Donc on est dans une période où on est agressé par deux choses, par la pandémie et par cet islamisme radical et guerrier. Et donc dans les deux, c'est aléatoire, les deux nous font peur. D'ailleurs, pour ça que les gens suivent bien ce qu'on leur demande de faire, même s'ils sont pas toujours favorables au gouvernement. Donc si vous voulez, ça va durer. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas si ça va durer 6 mois, 1 an, 3 ans. Le terrorisme, ça va durer des années. Ça, on s'en est aperçu, ça fait déjà 30 ans que ça dure. Donc là, on sait qu'on est dans le long terme. Mais par contre, la pandémie, on ne sait pas.
La crise sanitaire, on en sait un petit peu moins. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle La page blanche aux éditions de l'Aube. C'est un livre sur l'aventure tragique que nous vivons en ces temps de pandémie. Vous l'avez écrit pendant le premier confinement. Voilà qu'un deuxième nous tombe dessus. Comme jamais, on ne sait plus de quoi il fait le lendemain, ne plus avoir la possibilité de se projeter, vivre dans l'angoisse. Comment garder son sang-froid, continuer à avancer et continuer à avoir des projets, Jean Viard?
Mais si vous voulez, d'abord c'est difficile. Après, ouais, je disais l'autre jour, par exemple, on pourrait offrir 1 million de livres de poche aux jeunes de banlieue qui ne peuvent plus sortir. C'est-à-dire, il faut qu'on donne du contenu à ce qui se passe, parce que honnêtement, on va pas dire que c'est positif. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est négatif. Il faut lui donner du contenu. Il y a plein de couples qui vont se retrouver. Déjà dans le premier confinement, on a vu ça très fortement. Il y en a aussi beaucoup qui vont divorcer. Il va y avoir pas mal de bébés. Il va y avoir aussi effectivement beaucoup de déménagements. Toute la société est en train de glisser et de bouger. La question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre qui nous sera utile après. Et c'est pour ça que moi j'ai un discours pas positif, on peut pas être positif quand il y a eu 1 million de morts sur la planète et 30 000 en France, mais en même temps au début on avait annoncé beaucoup plus, la grippe espagnole c'était 50 millions, il y avait moitié moins d'habitants. Donc si vous voulez, le confinement, le boulot qu'on a fait, la coopération planétaire, le fait de se refermer, etc., a sauvé des dizaines de millions de vies. Et je pense que ça d'abord c'est une chose qu'il faut dire, qu'on ait la fierté. Pourquoi est-ce qu'on vit ça tragiquement? C'est bien sûr pour les hôpitaux, mais c'est quand même d'abord pour sauver des centaines centaines de millions de vies. Moi, je crois, des dizaines de millions de vies, pardon. Moi, je crois que ça, c'est une chose importante. Et la deuxième, c'est que je pense que ce petit virus, il nous a rappelé que notre magnifique civilisation scientifique et technique, qui est magnifique, qui n'a jamais existé, ben, elle est fragile devant un truc absurde, un koala qui croise un chinois dans un marché, on sait même pas très bien si c'est vrai. Et donc, ça veut dire que quand l'humanité décide de s'affronter aux problèmes que lui crée la nature, elle est puissante. Et au fond, si vous voulez, là, au fond, il y a un côté répétition générale face à la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'avant, on triait tous nos poubelles, on triait, enfin, tous, presque tous, nos, mais on avait quand même l'impression, il y avait un certain côté dérisoire, quoi. Et là, d'un coup, on se dit, mais non, à 5 milliards, on peut s'y mettre ensemble et changer les choses. Et je pense qu'il faut en tirer une confiance dans la capacité que va avoir l'humanité à lutter contre le réchauffement climatique.
Restez avec nous, Jean Viard, Louane et vous, chers auditeurs d'RTL. On continue de parler de cette pandémie. On essaye d'en tirer des aspects le plus positifs possible juste après ça.
Le journal inattendu de Louane
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Nous sommes avec Louane et avec le sociologue Jean Viard. Le monde de la culture est à nouveau quasi à l'arrêt à cause du confinement. Nous rentrons dans un mois au moins où nous serons coupés de tout lien social et le terrorisme a frappé notre pays une troisième fois en un mois. Comment réagir à cette nouvelle attaque terroriste, Jean Viard? Que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour montrer aux terroristes qu'ils ne gagneront pas?
Mais si vous voulez, d'abord, il faut être solidaires les uns des autres. On l'avait été déjà pendant le premier confinement. Vous savez, ces gens qui, ça, tous les soirs à 8h, applaudissaient, etc.
Aux fenêtres, les soignants.
Voilà. Et je crois que c'est important de se dire ça, de se dire on est collectivement responsable de ce qui va s'arriver. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que depuis 30-20 ans, on n'arrêtait pas de nous dire l'hôpital, ça coûte trop cher. On nous parlait du mammouth pour parler de l'éducation nationale. On se rend compte que la santé et l'éducation, c'est le cœur d'une société démocratique. Ça, je pense que, si vous voulez, c'est un basculement. Donc ça, ça va bousculer les politiques publiques et privées, parce que sinon, ça va exploser. Donc là, ça va changer. Mais après, effectivement, ben, il faut se donner des objectifs. C'est toujours la même chose, qui peuvent être des objectifs privés. On continue à travailler. Les enfants continuent à aller à l'école. Donc, si vous voulez, c'est pas la même situation tout à fait que la dernière fois. Mais effectivement, il faut se donner des objectifs. Il y a plein de gens qui s'en donnent. Vous savez, par exemple, il y a 300 000 personnes à revenus importants qui se sont fait bâtir une piscine depuis le précédent confinement, vous voyez. On dirait que c'est une goutte d'eau, si on peut dire, dans un océan de problèmes, mais c'est pour ça qu'il faut voir les gens évoluent dans leur mode de vie, ils évoluent dans leur pratique.
Il y a aussi, Jean Viard, un million de personnes pauvres en plus depuis le
tout
précédent
confinement.
Tout à
fait, et pour ça, j'allais dire la deuxième partie. Il y a un million de pauvres en plus, il y a peut-être 10% des couples qui sont au bord de l'explosion, il y a 400 ou 500 000 personnes de plus au chômage, etc. Donc les tensions augmentent. Les tensions augmentent d'un côté sous cette pandémie, d'autre côté sous la question du terrorisme. La société est en très grand danger, si vous voulez. Et là, c'est là où les politiques ont un rôle central pour nous donner un sentiment de rassemblement. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les politiques, concrètement? Qu'est-ce qu'ils doivent dire à la population et quelles mesures concrètes devraient-ils prendre?
Ils doivent dire ce qu'ils savent, ils doivent dire ce qu'ils ne savent pas. Ils doivent dire on essaye ça, puis après ils doivent nous dire écoutez, on a essayé ça, mais ça n'a pas marché, on essaye autre chose. Personne n'a les clés. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut être très
transparent. De l'honnêteté, de la transparence.
Bien sûr, parce que ça nous sécurise. On sait qu'ils ne savent pas. Autant qu'on nous le dise clairement. Regardez au début l'histoire des masques, l'absurdité de ces discours, comme quoi les masques n'étaient pas utiles. Ça nous est tous resté dans la tête. Ça, regardez bien ce que font les autres. Et puis, commencez à dire, attendez, demain, on va transformer les hôpitaux. Demain, on va retransformer l'école. Donnez un futur. C'est essentiel pour que ce qu'on vit, il va y avoir des milliers de morts, peut-être des dizaines de milliers de morts en France. Donc, si vous voulez, on va traverser ça. On peut pas l'éviter. Mais on peut essayer, effectivement, d'abord de se protéger les uns les autres et de protéger les plus fragiles. Je dirais que c'est la moindre des choses. Mais il faut qu'on ait un projet commun du futur. Parce que c'est pas simplement une situation individuelle. On la vit individuellement. Mais demain, le monde sera un peu différent. On vit quelque chose qui va marquer l'histoire de l'humanité.
Vous parlez donc, futur. Dans votre livre La Page Blanche, vous dites que pour avancer, il faut déjà se projeter en 2022. Donc 2021,
ou plutôt, mais peut-être même plus loin.
Du positif.
La vérité du présent sera donnée dans un an, deux ans, dix ans. C'est-à-dire le temps qu'on construise un récit, que les intellectuels travaillent, les associations, les artistes, les romanciers, etc. Vous savez, la Belle Époque, c'est une idée qu'on a inventée dans les années 20 pour parler d'avant la guerre de 14. Hein. Donc, on va construire un récit. Ce récit, pour l'instant, on le vit individuellement dans tous les problèmes qu'on a. On peut pas sortir, nos vieux parents sont malades, etc. Bon, mais demain, il y aura un récit collectif sur l'aventure commune. Moi, c'est ça que j'essaye de faire comme intellectuel, de commencer à penser ça. Et c'est le but de mon livre, parce que je pense que c'est important qu'on commence tous à en discuter, à se demander ce qui va changer, etc. Parce que d'un coup, ça nous rouvre une fenêtre dans une période qui est confinée et enfermée, il faut bien le reconnaître.
Merci Jean-Vierre. Ben, je rappelle votre livre, La Page Blanche, aux éditions de l'Aube, actuellement disponible. Merci pour toutes ces petites clés pour essayer de tenir le coup et bon confinement à vous.
Merci.
Après
à
une
vous.
Courte pause, on revient à la musique avec vous, Louane. D'ailleurs, ça, c'est une de vos chansons préférées. Et c'est aussi une des chansons préférées des auditeurs d'RTL. Merci d'être avec nous. À tout de suite sur RTL.
RTL, le journal inattendu.
Louane, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu de Louane.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La bière en temps désert. Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges.
On se fait plaisir aussi avec des titres des précédents albums quand même, Louane. Midi sur novembre, le duo avec Julien Doré. Dans le journal inattendu, on découvre aussi notre invité à travers ses goûts musicaux et cinématographiques. Alors on commence avec le cinéma.
Harry Potter.
Qu'est-ce que vous aimez dans Harry Potter?
Vraiment, ce serait plus court de dire ce que j'aime pas et il n'y a rien.
D'accord.
Je sais pas, j'ai commencé
Harry Potter. Ça vous inspire, ça vous permet de vous évader, ça...
Et c'est surtout que j'ai commencé Harry Potter toute petite. J'ai lu, j'ai vu.
J'avais grandi avec.
Ouais. J'ai complètement grandi avec. Et je pense que j'ai trop hâte que ma fille ait l'âge de regarder Harry Potter pour lui montrer. Parce que vraiment, c'est. Bon, j'imagine que ça aura grave vieilli d'ici là, mais vraiment.
Oh, il y a des classiques qui datent d'il y a 10-20 ans qu'on continue à lire aujourd'hui. Alors, l'occasion de découvrir Harry Potter. Les livres, les films?
Ouais, le problème, c'est qu'en vrai, quand on regarde les films aujourd'hui, genre les premiers films, on sent bien que les techniques d'effets spéciaux ont vachement évolué et ça se voit.
Oui, mais ça fait aussi le charme
ouais,
du film.
Ouais, bien sûr, complètement.
Vous lui raconterez, vous lui expliquerez
évidemment.
Que ça a été vos préférés pendant votre enfance. Alors, parmi vos musiques préférées, il y en a une qui pourrait devenir un hymne en ce moment, Nina Simone,
vraiment.
Feeling Good. D'ailleurs, vous étiez venue l'interpréter dans le grand studio RTL en 2014, présenté
là là.
Par Éric Jean-Jean. Vous vous souvenez?
Oui, je me rappelle très bien.
On écoute.
It's a new life for me, and I'm feeling good.
C'était quand?
C'était en 2014. Vous vous souvenez de ce moment?
Mais oui, je me rappelle très bien. Même j'avais une tresse sur le côté et une chemise en jean. Je me rappelle très très bien de ça.
Alors, une nouvelle fois, je vais pouvoir inviter les auditeurs d'RTL à aller voir la vidéo
si
du
petite.
Grand studio.
Et
si petite, c'est marrant de vous entendre dire ça parce que. Vous êtes super jeune, Louane, vous avez 23 ans.
Oui, mais donc du coup, genre. Mais,
alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Qu'est-ce que vous trouvez de différent?
Déjà, je sens complètement mon stress et ça se sent à ma façon de jouer. J'accélère la chanson comme. Mais ça, c'est mon truc. À chaque fois que je stresse, j'accélère les chansons.
D'accord.
Mais là, ça s'entend vraiment.
Parce que là, c'est
moi,
du live,
je le précise. Bien sûr, je l'entends vraiment. Je l'entends à ma façon de jouer. Je suis tellement pas précise. Je suis contente d'avoir évolué dans ce métier de plus en être là aujourd'hui.
Alors je disais au début de cette émission que je vous trouvais changée. Moi je vous suis depuis le début. Vous avez des paroles qui ont évolué et la voix qui a changé aussi. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, bah ça c'est évident. Mais c'est parce que je fais partie de toute la catégorie femme de la planète qui mue aussi en fait. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup parce que bah, quand on n'est pas chanteuse, c'est quasiment incaptable.
Mmh.
Et surtout, c'est quelque chose qui n'est pas tellement important ni fulgurant. Chez les hommes, on en parle beaucoup parce que c'est quelque chose d'instantané qui devient un peu... Oui, puis difficile
ça fait,
à vivre.
Ça fait une vraie différence voilà, à l'oreille. C'est plus subtil chez les femmes. Mais alors vous, en tant que chanteuse, bah ouais, vous nous dites que ça a, chanteuse, ça a été une vraie différence. Comment vous travaillez votre voix du coup aujourd'hui?
Bah, je travaille ma voix de la même façon en fonction de ce que j'ai gagné et de ce que j'ai perdu. Parce que dans la mue, évidemment, on gagne et on perd. J'ai perdu des aigus, c'est normal. J'ai gagné des graves, c'est normal. C'est une question de cordes vocales. En gros, les cordes vocales, elles évoluent. C'est un muscle et comme tout le corps, bah, les muscles, ils évoluent avec le corps, avec la façon dont on grandit. Là, techniquement, j'en ai fini avec ça. Donc,
d'accord.
Je crois que...
Ça ne vous a pas trop déstabilisé? Vous en êtes contente de cette voix que vous avez aujourd'hui?
Contente. Au contraire, je suis contente que ce soit terminé parce que honnêtement, muet quand on est une chanteuse, c'est une tannée. C'est très long, c'est très chiant. On ne sait jamais comment la voix va sortir et l'entraînement à ce moment-là est plus que crucial. Et en plus de ça, la voix de la femme change en fonction de ses cycles aussi. Donc, je suis contente de plus être dans la mue et de pouvoir gérer ma voix beaucoup plus facilement.
Et le résultat, ça donne. Aussi Aimé à mort, titre du dernier album Joie de vivre. Vous parliez il y a un instant des aigus. Ça va, ça monte quand même.
Alors, ouais, mais je sais quand même que je monte moins qu'avant. C'est juste que je pense que les gens, ils n'ont pas l'habitude de m'entendre chanter dans les aigus. Parce que honnêtement, je me suis toujours sentie...
C'est pas votre ton de voix.
C'est pas ça. En vrai, je me suis toujours sentie plus à l'aise dans les graves. Hein. Mais ça s'entend même quand je parle. Hein.
Oui, c'est vrai. On l'entend bien depuis 40 minutes avec vous. Chaque semaine, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix.
Yes.
Si vous avez une demande à faire passer ou si vous souhaitez parler à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Ah, c'est une demande. Alors, à qui avez-vous choisi de laisser un message, Louane?
Salut, Covid. Écoute, viens, on parle, on est honnête, 2 secondes. Franchement, on pensait pas que tu pouvais encore être là depuis tout ce temps. C'était vraiment arrogant, on est d'accord. On pensait pas qu'un petit virus comme toi pourrait autant troubler nos sociétés, nous isoler, nous séparer, créer le manque à ce point. Tu as remontré la fragilité de la vie de façon parfois tellement dramatique. J'aimerais que tu ne deviennes pas un sujet politique, qu'on se souvienne juste de toi pour avoir replacé ce qu'on appelle l'essentiel de la vie, de nos vies. On a tous hâte que tu t'en ailles, que tu nous laisses tranquilles le plus vite possible. Tant que t'es encore là, je nous souhaite à tous du courage, de la force, faisons attention à nous, aux autres, surtout. Merci aux soignants et des grosses pensées aux malades.
Si je peux me permettre, j'espère que le Covid va bien entendre votre message.
Louane, j'espère aussi.
Merci d'avoir été avec nous ce midi. Joie de vivre, c'est désormais disponible. C'est votre 3e album, il est super.
Merci.
À écouter et réécouter pendant le confinement, tout comme cette émission, un podcast sur RTL.fr. Tout de suite, c'est confidentiel avec Jean-Alphonse Richard sur Madonna. La semaine prochaine, je reçois le philosophe Michel Onfray. Bon week-end à tous sur RTL, c'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 12h30.
Donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es.
RTL, le journal inattendu.